Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Barthélémy Gaillard et Sacha Mattei, réalisée par Vivian Lecuivre. Et à la technique ce matin, c'est Nicolas Leroulé. C'est le deuxième volet de notre série consacrée aux déchets et aux enjeux sanitaires, environnementaux, sociaux, mais aussi très politiques de leur gestion. Nous parlions hier des négociations internationales pour en finir avec la pollution plastique. Aujourd'hui, les déchets sont-ils une marchandise comme une autre? Le commerce international de nos déchets, souvent en effet du nord vers le sud.
J'ai un matelas, un frigo. Là, j'ai un très joli miroir. Ça va partir au Congo, oui. Ça va faire du bonheur.
Nous n'arrivons pas à trier nos propres déchets. C'est pour cela que le secteur du recyclage est dépendant du plastique qui arrive de l'étranger. Il existe une législation pour réguler l'importation en Turquie. Mais malheureusement, elle n'est pas suffisante.
Quand vous regardez un endroit comme Aboboloshi, par exemple, en termes de pollution du sol, nous avons mené quelques études sur les gens qui collectent les déchets et nous avons découvert qu'ils ont un très haut niveau de certains métaux dans le sang. Ce n'est pas quelque chose dont on peut être fier. Ce n'est pas bon et on doit beaucoup s'en inquiéter.
En 1928, lors de son long voyage au Sénégal et au Congo, le journaliste Albert Londres, qui s'intéresse aux hommes, s'étonnait néanmoins de ramasser un peu partout des ciseaux dont les branches ne se touchent pas, des couteaux qui ne coupent pas, des miroirs qui ne reflètent pas, des savons qui ne savonnent pas, et l'on pourrait aller jusqu'à dire des flûtes sans trous. Ces objets inutilisables ne proviennent pas d'usines sournoises, ce sont des outils dont la France à l'époque ne voulait plus, des déchets que l'on pensait juste assez bons pour toute une partie de la Terre. Un siècle plus tard, les pays du Sud sont désormais payés pour importer des déchets qu'ils n'ont pas produits, que ce soit pour les valoriser pour leur propre filière locale ou pour les détruire. Un commerce international des déchets existe donc officiellement. Il représente plus de 180 millions de tonnes par an, plastique, carton, métaux, huile industrielle, déchets de bois. Chaque détritus a une certaine valeur, ce qui a fait dire pendant longtemps que ce type d'échange était donnant-donnant entre pays exportateurs et importateurs, pour le dire vite, entre le Nord et le Sud. Alors pourquoi la Chine a-t-elle décidé de mettre un terme à l'importation de certains déchets en 2018, ce qui a redirigé les flux vers d'autres pays d'Asie, soudain débordés et qui ont légiféré à leur tour? Ce commerce des déchets est-il encore soutenable? Nous en parlons ce matin avec nos invités. Bonjour Peter Borquet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste et ingénieur, responsable économie circulaire à la Direction environnement de l'OCDE. C'est l'Organisation de coopération et de développement économique, une organisation intergouvernementale qui vise, je cite, à promouvoir la croissance économique, l'emploi et la durabilité environnementale. Bonjour Eugénie Joltrot.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en duplex depuis la RAI, nos confrères de la RAI en Italie que je salue. Vous êtes à Milan, vous êtes économiste, chercheuse à l'Institut européen d'économie et d'environnement et au Centre euro-méditerranéen sur le changement climatique. Eugénie Joltrot, cette première question toute simple, est-ce qu'il existe une définition officielle et même légale dans les différentes conventions internationales d'un déchet ?
Oui, alors un déchet, c'est toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Et le déchet pose un risque, donc il y a une classification, notamment le code BAL, qui les classifie en tant que dangereux ou non dangereux.
Donc ça, c'est la principale, c'est la principale distinction qu'on fait entre les déchets dans un premier temps. Certains sont dangereux et donc on ne peut plus les exporter hors des pays de l'OCDE. D'autres ne sont pas considérés comme dangereux. Les articles de seconde main sont considérés comme des déchets, Peter Borquet, c'est une grande question aussi que se posaient les exportateurs de déchets avant la convention de Bâle, laquelle a a priori réglé la question.
Alors, les produits de seconde main sont considérés comme des produits, comme des biens. Ce ne sont donc pas des déchets. Ils ne sont pas concernés par la convention de Bâle et pas régulés par la convention de Bâle. Ceci dit, souvent, la frontière entre les deux, enfin, entre le bien de seconde main et le déchet est un peu floue. C'est-à-dire que typiquement, dans les conteneurs qui vont à l'export emmener des textiles, par exemple, de seconde main, on va trouver une grande partie de textiles qui sont réellement des déchets, qui sont
inutilisables,
non valorisables sur place.
Donc ces déchets, on a beaucoup parlé de la question de l'exportation des textiles usagés vers des pays d'Afrique, alors quand c'est de la seconde main, on ne parle plus de déchets, on parle quand même de tonnes de vêtements usagés qui arrivent par exemple au Ghana, dont on parlera tout à l'heure pour d'autres déchets, 58 000 tonnes de vêtements usagés qui arrivent au Ghana chaque année. A priori, on exclut cette question-là de notre discussion. Ce que certains considèrent comme des déchets, d'autres se proposent d'en faire quelque chose, soit les traiter ou de les détruire. Ils sont pour cela rémunérés. Qu'est-ce qui donne de la valeur aux déchets? Est-ce que la valeur d'un déchet s'établit, Peter Borquet, ou se fixe comme pour n'importe quelle marchandise?
Je dirais qu'en principe, oui. C'est-à-dire, les déchets sont principalement exportés là où ils sont valorisables et où on peut en retirer la plus grande valeur. Les déchets sont souvent exportés dans les endroits qui ont les capacités à l'échelle de traiter les déchets, de les recycler.
Qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle, en
l'occurrence? À l'échelle, c'est-à-dire en étant économiquement efficace, avec des installations d'une certaine taille. C'est un petit peu comparable à la taille optimum des usines de production automobile. Il faut que certaines installations industrielles aient une taille minimum, voire optimum, pour pouvoir recycler au moindre coût.
Avec en fait de grandes disparités entre les pays qui importent ces déchets. On aura le temps d'entrer dans certains détails, mais certains pays n'ont plus assez de capacité, soit de stockage, soit de retraitement ou de recyclage, et donc envoient vers des sites qui sont plus ou moins illégaux. On aura le temps de rentrer dans ces détails-là. Tous les déchets n'ont pas la même valeur, bien sûr, ça dépend aussi tout simplement de leur nature.
Oui, tout à fait. Je dirais que voilà, le marché du commerce international des déchets est dominé par les déchets de métaux, ferreux et non ferreux. Ça représente à peu près les trois quarts en valeur des échanges de déchets. Après, il y a le papier, il y a les plastiques. Voilà, donc ça montre déjà très bien que voilà, les déchets n'ont pas tous la même valeur. En volume, ça se présente autrement. Les déchets ferreux, non ferreux représentent à peu près 50% du marché. Donc on voit bien que ces déchets-là sont particulièrement valorisés. Voilà, je m'arrête là.
Comme vous êtes économiste, je vous pose encore cette question-là et puis après je me retournerai vers Eugénie Joltreau. Mais est-ce qu'il y a des périodes où le cours des déchets monte, d'autres où il baisse? Ça dépend aussi de l'offre et de la demande. Ça dépend, en fait, tout ce marché international, il est presque classique comme tout autre système de valeur. Il fonctionne avec la loi de l'offre et la demande, le coût du traitement, les bénéfices attendus, etc.
Tout à fait. Alors, pour prendre l'exemple des plastiques... il y a effectivement des fluctuations du prix des déchets plastiques assez importantes et aussi du prix de la matière recyclée par la suite, liées en partie à la compétition avec la matière première. Et donc on connaît les fluctuations très importantes du prix du pétrole qui se répercutent sur les plastiques vierges. Et donc quand les plastiques vierges sont très peu chers, la valeur du plastique recyclé est aussi affectée et
perd en intérêt.
Mmh.
Voilà. Donc les pays importateurs de déchets se sont spécialisés au fil du temps dans le retraitement ou l'utilisation de certains types de déchets. Qui importe quoi? Eugénie Joltreau, je sais que vous êtes particulièrement spécialiste des plastiques et des emballages. Néanmoins, vous avez une idée un peu générale de quel déchet va où en général?
Oui, alors déjà, c'est important de noter la place de la Chine historique dans les importations de déchets, donc surtout papier, carton et plastique. Et ensuite, comme vous l'avez noté, une redirection des flux suite à l'interdiction des importations.
Pardon, pourquoi la Chine, c'est important aussi de rentrer dans certains détails, pourquoi la Chine importe des déchets papier et carton? Parce qu'en effet, les chiffres, les quantités sont impressionnantes.
Oui. Alors, la Chine, à l'époque, donc avait une très forte demande pour des matières à bas coût. Et il y avait des canaux de commerciaux déjà existants. Donc, les pays européens importaient beaucoup de produits manufacturés et ces bateaux repartaient à vide. Donc là, il y avait une optimisation du transport, donc un coût du transport très faible, des normes moins strictes et une main-d'œuvre moins chère. Donc, tout ça a fait que il y a eu beaucoup d'exportations en Chine, et notamment pour la production d'emballages.
D'autant que la Chine n'a pas de bois. Donc, pour faire des cartons et des emballages qu'elle produit aussi, elle importe d'abord des déchets papier et carton qu'elle renvoyait, en tout cas jusqu'à récemment, qu'elle réexpédiait vers les pays occidentaux.
Oui.
Donc, la Chine spécialisée plutôt dans papier et carton plastique. La Turquie est l'une des principales importatrices d'acier.
Oui, premier importateur mondial de ferraille. Et principal acheteur des pays européens. Et la Turquie a aussi d'importants chantiers de démolition navale qui posent aussi des préoccupations environnementales importantes.
Donc quand il y a des chantiers de démolition navale, en général, des entreprises turques sont sur le coup, entre guillemets, pour récupérer des matériaux que la Turquie ensuite réutilisera pour sa propre production industrielle. Vous qui travaillez surtout sur les plastiques et les emballages, qu'est-ce qu'on peut dire, une sorte de cartographie des pays spécialisés jusqu'à présent dans l'import de ces déchets-là?
Donc il y avait bien sûr la Chine et ensuite... Il y a une redirection des flux, donc principalement vers la Malaisie, le Vietnam et la Thaïlande. Ce qui est important de noter aussi pour les plastiques, mais pour les déchets en général, c'est qu'il y a une difficulté de tracer ces flux. Donc il y a beaucoup de commerce illégal et notamment il y a un rapport Interpol de 2018, donc suite aux restrictions importantes de la Chine, qui fait état de fortes hausses d'envois illégaux de déchets vers l'Asie du Sud-Est et de multiples pays de transit.
Voilà, parce que la Chine, en 2018, n'a non pas interdit les importations de déchets, elle n'a pas non plus fermé ses frontières, mais elle a abaissé le taux d'impureté qu'elle acceptait dans les déchets reçus. Elle l'a fait passer de 5 à 0,5%. Elle a augmenté les contrôles, ce qui a presque fermé, en effet, les barrières de ces containers de déchets qui arrivaient par dizaines tous les jours pour apporter des plastiques qui, en fait, étaient mal recyclés en amont. On rentrera encore une fois dans ces détails-là, mais comme on est dans une sorte de panorama des déchets, quels sont-ils, où vont-ils? Il se trouve que plusieurs pays d'Afrique se sont spécialisés dans l'importation de vêtements, on le disait, mais aussi d'appareils électroniques de seconde main, des appareils qui s'amoncellent dans d'immenses décharges, comme celle d'Agboge Blochier, qui a été rasée en 2021. C'est donc depuis dans le quartier voisin d'Old Fadama, dans la banlieue de la capitale d'Accra, qu'on retrouve maintenant ces tonnes de déchets.
We are helping the country.
Et nous, qui travaillons dans la décharge, on aide le pays.
The phones,
les téléphones usagés en fin de vie.
Computers,
les ordinateurs.
Video decks,
les DVD.
Engines,
toutes sortes de machines.
Washing machines.
Des machines à laver, des réfrigérateurs.
As I described, everything. We are cleaning the region.
Nous, on est là pour nettoyer la région.
We are not scrap dealers. Accra would look very badly.
Parce que si on n'était pas là, nous autres, les travailleurs de la décharge, Accra serait autrement plus laide.
Parce
que quand par exemple les ordinateurs, voilà, quand on les achète, on les démonte complètement.
And there's some small wires inside.
Et on récupère tout ce qui est à l'intérieur, les petits câbles.
There's a small aluminium too inside.
Des petites pièces en aluminium à l'intérieur.
So we separate everything.
Tout est séparé comme ça.
Yeah, even the box.
Même la boîte en plastique de l'ordinateur, on la met d'un autre côté.
Yeah, we have a company that we sell that one too.
Il y a quelqu'un d'autre qui les rachète là aussi.
So anything that you come as a condemn, it have use for us.
C'est-à-dire que tout ce qui arrive ici en bout de chaîne, pour nous, ça a une utilité, on pourra toujours l'utiliser.
Témoignage d'un homme Chazan qui travaille dans cette décharge d'Old Fadama dans la banlieue d'Accra, la capitale du Ghana. Il était interrogé et traduit l'année dernière par Guy Vanctil, notre confrère de France Inter. Le Ghana importe 170 000 tonnes de déchets électroniques par an. Peter Borquet, qu'est-ce qui avait décidé le Ghana à fermer cette décharge d'Agbog Blochi, la plus grande décharge du monde?
Alors, je ne connais pas ce cas spécifique, mais j'imagine que ce sont donc les impacts environnementaux et les impacts sur la santé en fait, des populations qui vivent sur cette décharge ou adjacent à cette décharge qui ont motivé le pays de fermer cette décharge. Il faut savoir que les impacts environnementaux de déchets mal gérés, et quand je dis déchets mal gérés, ça veut dire qu'ils sont tout simplement jetés dans la nature, dans les rivières par exemple, typiquement, sur des décharges sauvages, ou encore pire, en vérité, ils sont brûlés dans les installations qui sont prévues pour ça, mais un petit peu à l'air libre. Et du coup, on a des émissions de dioxine notamment qui sont extrêmement dangereuses. Et qui affecte après la santé des populations qui vivent à proximité de ces sites.
Ces déchets très toxiques contenus dans le lithium, le mercure, le plomb notamment. L'Union européenne a interdit d'ailleurs depuis quelques années l'exportation des déchets électriques et électroniques vers les pays qui ne sont pas membres de l'OCDE. Dans les déchets, Eugénie Joltrou, il y a toujours une part non valorisable. Par exemple, dans ces déchets électroniques, il y a le cuivre et d'autres métaux qu'on récupère, mais il y a aussi du plastique qui n'est plus nécessairement récupérable. La question de savoir dans ces grands containers de déchets qui arrivent dans les pays qui sont payés pour a priori les retraités, qu'est-ce qu'on fait de cette part qui n'est pas valorisable?
Mais c'est tout le problème justement de ce type de déchets, c'est que donc ils sont importés, donc légalement ils devraient être importés pour être recyclés, mais en fait sur place il n'y a pas forcément de traçabilité. Et la partie non valorisable, comme dit Peter Burke, qui est brûlée. Donc on a beaucoup vu des plastiques brûlés à l'air libre, donc ça c'est très toxique. Mais aussi des déchets qui peuvent être valorisables, mais on se rend compte sur place qu'ils sont contaminés ou la demande sur place finalement ne suit pas. Et donc c'est là qu'il y a des problèmes importants.
La convention de Bâle, est-ce qu'elle prévoit des contrôles pour s'assurer que ce qui peut être recyclé l'est effectivement sur place ensuite dans de bonnes conditions? Eugénie Joltrou.
Alors la convention de Bâle, c'est tout son principe. Donc dès le départ, elle demandait une gestion écologiquement rationnelle, donc de ne pas envoyer les déchets vers les pays qui ne peuvent pas les gérer. Et elle prévoit différentes méthodes de vérification, notamment pour les déchets dangereux, avec un consentement écrit en connaissance de cause. Mais en fait, ce qu'on voit avec la convention de Bâle, c'est une succession d'amendements, donc d'exporter déchets vers les pays en voie de développement, d'exporter les plastiques matriers. On voit aussi la convention de Bamako sur interdiction des importations. Donc en fait, on voit que finalement, ces procédures, elles n'ont pas été suffisantes puisqu'on a dû avoir une succession d'amendements pour augmenter les restrictions car ces exportations ont posé problème.
D'autant plus, Peter Borquet, oui, vous souhaitiez réagir, d'autant plus que cette convention de Bâle, par définition, elle n'engage que les pays signataires, donc les pays volontaires, qui a priori étaient déjà plutôt loyaux dans leur pratique. Donc il y a des dysfonctionnements inhérents à cette convention dès le départ ?
Je dirais pas qu'il y ait des dysfonctionnements dès le départ. C'est plutôt que la mise en œuvre du traité est complexe. Il faut se rendre compte que comme disait Madame Joltrou, la traçabilité des flux de déchets n'est pas vraiment donnée. Donc la problématique, c'est la mise en œuvre. Et c'est là où ça pêche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas souvent dans les pays aussi bien exportateurs qu'importateurs les capacités pour contrôler en fait les flux de déchets, Pardon, je vais prendre...
Une gorgée d'eau. Allez-y, je vous en prie, écoutez, en direct. D'accord, donc c'est plutôt un problème de s'assurer que tout est bien appliqué, de faire en sorte que toutes les règles qui ont été mises en place par cette convention fassent aussi l'objet de vérifications. Mais est-ce qu'il y en a des vérifications?
Alors, il y a des vérifications, mais c'est sur des échantillons. Et sur des petits échantillons. Donc, il y a, voilà, c'est très difficile. Les flux commerciaux sont d'une telle ampleur qu'il est très très difficile pour les services de la douane de faire des. Enfin, il est impossible de faire des vérifications systématiques.
D'autant que on contrôle plutôt ce qui arrive en Europe que ce qui en part, et dans les ports notamment du Havre ou de Dunkerque, il y a très peu de contrôle pour savoir ce que contiennent les conteneurs de plastique usagés notamment qui partent vers ces pays. Oui.
Je voulais rajouter un élément. Les pays exportateurs. Voilà, ils exportent pas ces déchets pour nuire aux pays du Sud. C'est un marché où les importateurs typiquement payent quand même pour recevoir ces déchets. Donc, ce sont.
Ils payent ou ils sont payés? Parce que dans certains cas, ils sont plutôt.
Ça dépend. Par exemple, pour pour la ferraille, typiquement, ils payent. La ferraille a une valeur positive. Certains déchets plastiques, assez bien triés, relativement purs en termes de catégorie de polymères, ont une valeur positive également. Pas tout ce qui est exporté, on va dire, avec. En étant accompagné d'un paiement par les pays exportateurs.
Alors il y a peut-être une logique. Il y a sans doute une logique économique, mais si on parle d'économie et ensuite vous dites qu'on n'exporte pas pour le mal de ces pays nos déchets. L'ancien économiste en chef de la Banque mondiale, je ne sais plus son nom, c'est dans les années 90, il avait dit dans un mémo interne que la logique économique derrière la mise en décharge de déchets toxiques dans les pays à bas salaire est impeccable et qu'on doit l'accepter. J'ai toujours pensé, disait-il, que les pays sous-peuplés d'Afrique sont considérablement sous-pollués. Alors certes, il était sans doute un des rares à dire ça à l'époque, et vous n'avez pas l'air d'être, je l'espère, très d'accord avec ça, mais néanmoins, cette logique économique, elle a quand même des conséquences dans ces pays qu'on va prendre le temps de développer, mais des conséquences notamment en matière environnementale, et surtout en matière sanitaire et environnementale.
Tout à fait. Je pense que ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'une partie du commerce de déchets est tout à fait souhaitable, parce qu'elle conduit à la valorisation de ces déchets, à des taux de recyclage qui sont sans doute supérieurs à ce qui serait sans commerce international. Après, une partie de ce commerce qui est nuisible et qui conduit à des impacts environnementaux, des coûts sociaux pour les pays qui reçoivent ces déchets. Et donc, c'est un marché qui est utile, mais qui doit être fortement régulé, ce qui a été tenté à travers la Convention de Bâle. Mais la Convention de Bâle, elle n'adresse que ce qui est qui a le statut de déchet, elle n'adresse pas ce qui a le statut de produit de seconde main, par exemple. Elle essaye, et donc c'est pour ça qu'il y a eu des amendements, d'aller au-delà des déchets dangereux. Donc maintenant, des déchets plastiques, par exemple, qui n'étaient pas considérés comme étant dangereux auparavant, font partie des déchets qui sont contrôlés dans le cadre de la Convention de Bâle. Et donc, ce sont des déchets qui n'ont pas de contenu toxique, mais qui posent problème lorsqu'ils sont reçus dans des pays qui n'ont pas les infrastructures et les capacités de les gérer correctement.
Voilà, prenons un conteneur chargé de déchets de plastique qui arrive en Malaisie. Si les capacités de recyclage sont déjà saturées sur place ou s'il n'est pas intéressant à ce moment-là de transformer le plastique en granulé, par exemple, parce que les cours ont baissé, les décharges officielles, a priori, celles qui ont été agrémentées par l'État, on sait aujourd'hui qu'elles vont envoyer ces déchets-là vers des usines beaucoup moins officielles et beaucoup moins regardante sur les normes, avec toutes les questions que ça pose. Alors par exemple, vous nous rappeliez, Eugénie Joltreau, tout à l'heure, comment et pourquoi la Chine a en 2018 décidé, non pas d'arrêter vraiment d'arrêter d'importer du plastique usagé venant des pays occidentaux, mais de plus resserrer les contrôles, d'être beaucoup plus d'alourdir les sanctions et d'abaisser les taux d'impureté qu'elle acceptait dans les déchets reçus. Comment, déjà, pourquoi ça ne lui convenait plus à ce moment-là? Pourquoi, pendant des années, la Chine exportait ces déchets-là? Qu'est-ce qu'elle avait à y gagner? Et pourquoi, un jour, ça ne lui a plus convenu?
Alors, effectivement, comme vous le soulignez, ce n'est pas une interdiction. Mais en fait, c'était tellement strict que ça a conduit de fait à un arrêt quasi total des importations. Donc, par abus de langage, on parle d'interdiction. Donc la Chine, elle, importait des déchets plastiques depuis longtemps pour sa demande notamment, mais il y avait de plus en plus de scandales sur les conditions de recyclage pour la population. Et notamment, la Chine produisait elle-même de plus en plus de déchets. Et un système de recyclage industriel devient rentable quand il y a beaucoup de déchets. Donc à partir de ce moment-là, et vu qu'il y a une très forte difficulté de contrôle et qu'elle recevait beaucoup de plastique qui était contaminé, et donc ça c'est voilà, encore une fois, c'est très difficile à contrôler, c'était le moment pour justement interdire, pour stimuler aussi son système de recyclage local, parce qu'en fait quand un pays a accès à des déchets importés très peu chers, ça réduit l'incitation pour développer son propre système pour collecter ses propres déchets.
Aujourd'hui, on estime le taux de recyclage des déchets produits en Chine de 10% environ. Donc, en effet, la Chine a voulu se concentrer sur ses propres déchets produits par sa propre société de consommation qui a émergé ces dernières années et donc a décidé de beaucoup, beaucoup moins importer ces flux de déchets. Puis, il y avait aussi un documentaire sorti en 2016 et diffusé quelques semaines avant d'être censuré qui montrait une petite fille de 11 ans travaillant dans une décharge sauvage dans la campagne chinoise, film dont on avait apparemment beaucoup parlé en Chine à cette époque, d'où cette décision avec des effets immédiats sur les courbes des volumes de plastique exportés dans le monde qui se sont redirigés vers d'autres pays d'Asie, notamment du Sud-Est, par exemple en Thaïlande.
Le propriétaire de cette usine est chinois. Comme la Chine a interdit les déchets électroniques, certains sont venus continuer leurs affaires ici. S'il pleut sur ces déchets, une eau contaminée va s'infiltrer dans les sols et ravager tous les environs.
Bien sûr que je suis inquiète pour ma santé. J'ai déjà perdu 6 kilos sans aucune raison. Je suis en colère, je me sens si mal. Nous, les Thaïlandais, on n'en veut pas de ces déchets. Pourquoi notre pays devrait s'occuper de ceux de toute la planète ?
Un reportage, extrait d'un reportage pour France 2 avec une membre d'une ONG qui s'appelle Earth et d'une villageoise près de Bangkok en Thaïlande. Donc tous ces déchets venus de Chine qui risquent de polluer les sols et dont ces pays ne veulent plus et qui ont à leur tour d'ailleurs pris des mesures d'interdiction. En Thaïlande, ces mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier. Est-ce qu'il y a, Eugénie Joltreau, quand on parle de cette question-là, ce problème-là environnemental, est-ce qu'on parle du commerce international des déchets en tant que tel ou d'un commerce illégal, de faux déchets, de tout ce qui passe sous les radars de la Convention de Bâle?
Alors, donc c'est important, comme l'a noté Peter Barkey, de signaler qu'il y a une multiplicité des acteurs le long de cette chaîne de transfert, ce qui complique beaucoup la traçabilité, mais aussi de définir où finit la légalité et où commence l'illégalité. Donc les déchets en Europe, ils sont vendus à des repreneurs qui les exportent légalement ou illégalement. Donc par exemple, avec l'usage de fausses déclarations. Ensuite, les bateaux, ils peuvent dévier de route. Donc ça peut se dévier à ce moment-là. Et ensuite, sur place, comment est-ce que les déchets sont traités? Est-ce que ça correspond aux normes légales ou pas? Et excusez-moi, j'ai oublié votre question.
C'était savoir s'il y avait un commerce illégal de déchets, de faux déchets. Prenons un exemple, c'était un reportage paru dans Le Monde, signé Laura Motet, en 2020, qui se retrouvait dans une décharge en Malaisie et qui tombait sur un grand pot en plastique blanc avec inscrit dessus. Alors, c'était au milieu de monticules de déchets, enfin, c'était vraiment énorme. Elle tombe sur ce grand pot de plastique blanc avec inscrit dessus « Choucroute du Rhin, Roger Karst, 5 kilos ». Ce plastique-là, a priori, n'est pas recyclable. Qu'est-ce qu'il fait là? La chaîne que vous avez commencé à nous dérouler avec tous ces acteurs, à quel moment de la chaîne est-ce que ça déraille? Est-ce que c'est au moment où les centres de tri se débarrassent de certains déchets qu'ils ne s'estiment pas en mesure de recycler eux et qu'ils vont exporter? Est-ce que ce sont les négociants qui sont peu regardants sur ce qu'il y a? Est-ce que à quel moment de la chaîne il y a un problème pour qu'on se retrouve avec des tonnes et des tonnes de déchets qui ne sont pas revalorisables dans des déchetteries à l'étranger?
C'est justement le problème, c'est qu'en fait ça peut devenir illégal à tout moment de la chaîne.
Peut-être si je peux rajouter, en fait, surtout avec les plastiques, la problématique c'est que dans un conteneur de plastique qui sont déjà triés, il y a quand même des résidus, donc voilà, ces résidus, il va falloir faire un surtri sur place et voilà, ça va constituer en fait un déchet qu'il va falloir mettre en décharge ou incinérer. Ensuite, lorsqu'on recycle ces plastiques, il y a des rejets. Et ces rejets peuvent être assez importants, de l'ordre de 50% pour certaines opérations de recyclage. Donc là, encore, on va produire des résidus qu'il faudra traiter. Et justement, malheureusement, une partie des déchets qui sont exportés parce que ces résidus vont pas être traités de façon appropriée dans parce que les normes environnementales ne sont pas mises en œuvre, etc., dans les pays receveurs. Donc ça va baisser le coût du recyclage, hein, et ça va rendre le recyclage plus compétitif, mais en même temps saccager l'environnement. Donc voilà, il n'est pas anormal de trouver des déchets non recyclables dans les pays en développement. C'est pas nécessairement indicateur d'une transaction illégale. Mais par contre, voilà, c'est la façon dont les résidus qui apparaissent donc dans le process sont gérés. Ou justement pas gérés, qui pose problème et ce qui est plus un problème de gestion des déchets et de capacité à gérer des déchets dans les pays receveurs.
Avec toute la question que posent ces plastiques qui sont très difficilement recyclables, les tubes de dentifrice, les gourdes de compote jetables, les paquets de chips, aussi tous les emballages multicouches faits de différentes matières par strates ultra fines et qu'on jette souvent dans la poubelle jaune parce qu'on pense que c'est le bon geste et qui finalement se retrouvent parfois 6 mois plus tard parce que les trajets sont très très longs. On n'est pas du tout dans du cycle court, hein, le commerce international de déchets, parfois 6 mois plus tard dans une décharge en Malaisie. Alors vous ne parlez pas de colonialisme des déchets, manifestement ni l'un ni l'autre. Néanmoins, Eugénie Joltreau, à tout le moins, on peut se dire que les pays développés ont laissé faire des exportations problématiques, en tout cas.
Oui, en tout cas, il y a eu un manque de vérification, ça c'est sûr, et c'est ce qui a conduit aussi aux amendements et
à la convention.
La politique, la convention et la politique chinoise, ça a permis de mettre en lumière aussi tout ça via les redistributions des flux. Donc il existe un très grand commerce de déchets aussi entre pays développés. Mais pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup des flux nord-sud? Donc déjà pour les pollutions qu'elles peuvent générer quand ces pays n'ont pas les capacités de gérer les déchets dans des normes environnementales et sanitaires convenables. Et en fait, ce qu'on regarde, c'est le concept de justice environnementale, donc la manière dont sont distribuées les pollutions vis-à-vis de qui génère les déchets. Donc, qui supporte les coûts des pollutions versus qui génère les coûts, donc les déchets. Et donc, là, ce qui est mis en lumière, c'est le fait que les économies développées représentent une très grande part du revenu mondial et une part plus faible des importations par rapport aux pays en développement. Donc il y a une disproportion à ce niveau-là. Donc là, c'est pour ça qu'on relie ça au concept de justice environnementale. Et je continue, mais c'est important de dézoomer aussi du commerce des déchets et de voir que la justice environnementale des déchets ne concerne pas seulement les exportations. Il y a également beaucoup il y a des études qui montrent que les installations de traitement des déchets sont souvent situées de manière disproportionnée dans des zones où il y a des habitants défavorisés ou issus de minorités en Europe et aux États-Unis.
D'ailleurs, les pays du Nord, pour le dire vite, importent eux aussi, puisque vous le rappelez, qu'ils importent aussi des déchets. Quels pays et quels déchets ? Pourquoi ? C'est vrai, on parle beaucoup depuis le début de cette émission des déchets qui partent du Nord vers le Sud, mais quels sont les pays du Nord qui importent également des déchets ? Lesquels et pour en faire quoi ? Peter Borquet.
Alors peut-être pour prendre l'exemple des plastiques, parce que effectivement, voilà, il y a différents types de déchets et la situation est différente à chaque fois. Mais pour prendre l'exemple des plastiques, voilà, c'est intéressant de remettre en perspective en fait le commerce international des déchets par rapport à la génération de déchets, la production de déchets globale. Donc on est sur des échanges d'environ 6 millions de tonnes annuelles, donc de plastique qui sont échangées sur les marchés internationaux. Mais globalement, on produit 350 millions de tonnes annuellement de plastique, enfin de déchets plastiques. Donc on voit bien que déjà le commerce international ne représente qu'une petite partie, très petite partie. Donc ça veut bien dire que la plus grande partie des déchets est bien traitée en local, hein. Après, sur ces 6 millions de tonnes qui sont échangées sur les marchés internationaux, on en a environ 2 qui sont effectivement exportées des pays de l'OCDE vers des pays des économies émergentes ou des pays en développement. Mais 4 millions de tonnes, donc le double, sont échangées entre pays de l'OCDE. Et donc là, ce que j'évoquais au début, des logiques d'économie d'échelle, on a des avantages comparatifs que certains pays ont parce qu'ils ont des infrastructures, des usines qui savent traiter certains déchets. On a beaucoup de recyclage qui a lieu dans le nord de l'Europe, typiquement en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, qui sont un petit peu spécialisés et peut-être aussi un petit peu en avance sur certains types de recyclage en tout cas. Et on va retrouver une situation similaire pour les déchets ferreux et non ferreux, où on est à peu près sur du 50-50, d'après ce que j'ai pu voir dans la littérature. On a 50% des déchets ferreux, non ferreux, qui sont exportés des pays de l'OCDE vers les pays en développement, et 50% qui sont traités qui sont échangés entre pays de l'OCDE.
Alors, arrêter de consommer à outrance, ou de consommer tout court, arrêter de diminuer la production, ce sont des pistes qui semblent, depuis hier, se dessiner dans Culture Monde. Quand on a parlé du plastique, on ne voyait pas quoi faire d'autre qu'arrêter d'en consommer tellement cette invention est devenue ingérable et hors de contrôle. Arrêter d'exporter certains déchets, Jenny Joltreau, est-ce que cette réflexion existe ?
Oui, tout à fait. On a une nouvelle réglementation sur les exportations de déchets en Europe qui va interdire les exportations de plastique vers les pays de non-OCDE, donc tout type de plastique, entre 2026 et 2029. Et après cette période, les pays intéressés devront se notifier à la Commission européenne. Donc il y a des lois, il y a des volontés. Mais ensuite, étant donné que une des problématiques de ce commerce, c'est l'illégalité, il faut vraiment réfléchir aux incitations économiques à l'export. Parce que c'est ça aussi qui va être déterminant, parce que dans le cadre de l'illégalité, la réglementation, l'interdiction d'exporter, c'est un coût avec une probabilité de se faire prendre. Donc si ce coût, il n'est pas assez grand par rapport au commerce, au bénéfice d'exporter illégalement, il y aura encore des problèmes.
en tout cas parmi les déchets que l'Europe souhaite ne plus exporter, mais parce qu'elle y trouve un intérêt, il y a tout ce qui est contenu dans les batteries électriques pour pouvoir les recycler. On en parle juste après ce morceau d'un artiste ghanéen qui parle des déchets qu'il a partout autour de lui.
Ladies and gentlemen, obia ne ho te sen, kofi ne millicent, obia nko fa kenten, ye ba be pragana, praye ne bo ye sen, ye beti na hwama, aha wo sent, look at the environment, everywhere is rubbish, mon kanchere parliament, ye hiambola office, this is announcement, gota no mwa ye fin, don't wait for government, ubeti miya yati, look at agboboshi. Yes, ye da no maten, choko ni kaneshi, the whole Ghana my friend, ya fa efi nyankon, kolela ekumiye. If you're my one, you're true. We do ready, Jian. Michel got the media. Now, my two in the fee. Uba make ranasia. You need a tea fee. And said the one idea. Now, wafa in fitri. Now, wafa politin. Uya. Now, wafa chitri. I wish you cemetery. Got a no mumbe titi. Sister, whoopa wani. Uti huna wudidi. Bakunu su wafi. Missy hu aye gili. When you ne yali. Munchichi musi white. Wesi yempe jali. Guess who's so mupe white. I will go jovi. And the dame quakla. Miko hunku lobi, akla baby bonsa, capital city pa, nemu aye fin se, minka brofo ana, you dey hear what I'm say, if you go to toilet, wash your hand with your soap, don't destroy the forest, because of good, keep Ghana clean, sweep your gutter, menye ha mufnyo, eya kobola.
Keep Ghana Clean, dit cet artiste ghanéen. C'est une chanson qui date de 2018. Efo Chameleon qui dit « Regardez l'environnement, partout il y a des déchets. Dites au Parlement que nous avons besoin d'un ministère de l'assainissement. » Il a d'ailleurs samplé un morceau. Alors je pense que c'est Jay-Z, mais j'en suis pas sûre. D'ailleurs peut-être que les auditeurs vous saurez mieux que nous. En tout cas, le recyclage, c'est aussi dans la musique. Vous écoutez Culture Monde, le deuxième épisode de notre série sur les déchets. Aujourd'hui, le commerce mondial de déchets dont certains pays du Sud ne veulent plus. Quand les déchets en question contiennent des minerais stratégiques, l'Europe s'organise beaucoup plus vite, quoique, pour s'en occuper elle-même.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
C'est le cas pour les batteries électriques, celles qui servent aux véhicules, aux vélos, mais aussi aux téléphones. Depuis le 18 août dernier, un règlement européen impose de nouvelles règles pour améliorer leur recyclage et le faire en Europe. Bonjour Marie Nautch.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chargée de projet métaux critiques et recyclage à l'Institut Mobilité en Transition, institut associé à l'IDRI. Peut-être en deux mots d'ailleurs la mission que se donne cet institut, quelle est-elle ?
Alors, la mission de l'Institut Mobilité en Transition, qui est un think tank donc qui est incubé dans l'IDRI, un plus gros think tank, c'est vraiment d'objectiver toutes les problématiques qui vont avoir lieu pour effectuer la transition sur le secteur de la mobilité.
Identifier des leviers économiques, réglementaires, c'est technologiques, ça. Essentiels, écrivez-vous, au développement d'une chaîne d'approvisionnement en boucle fermée pour les minéraux critiques dans l'Union européenne. Ce règlement européen entre en vigueur cet été. Quelles obligations de recyclage impose-t-il ? À qui et pour recycler quoi ?
Alors, le règlement européen, il a été développé en juillet 2023. Effectivement, il y a une des obligations qui est dans ce règlement, qui est une obligation de responsabilité élargie des producteurs, qui, elle, a été adoptée par décret en France et est entrée en vigueur donc le 18 août 2025. Concrètement, ce que signifie cette responsabilité élargie des producteurs, c'est que des éco-organismes ou des systèmes agréés vont devoir prendre en charge la collecte et le traitement de ces stocks de batteries, donc notamment des batteries de véhicules électriques, sans frais pour les détenteurs.
Après, les détenteurs, même les particuliers, par exemple
les usagers de voitures électriques, exactement. En revanche, le règlement, il est beaucoup plus complet que cette simple obligation de responsabilité élargie des producteurs, et donc il y a plein d'objectifs, notamment d'efficacité du recyclage, également des objectifs de réintroduire des matériaux recyclés dans les batteries qui vont être mises sur le marché à partir de 2031. Donc c'est vraiment... Il y a plein de volets à ce règlement européen pour améliorer le recyclage.
Qu'est-ce qui est recyclable dans une batterie de véhicule électrique ?
Alors, c'est ce qui est assez intéressant par rapport au début de l'épisode, c'est que dans une batterie, c'est vraiment considéré comme un concentré de ressources. Et en théorie, c'est recyclable à l'infini. Les métaux stratégiques qu'une batterie contient, donc par exemple le nickel, le lithium, Le cobalt, ce sont des métaux qui sont recyclables à des taux extrêmement élevés, de l'ordre de 95%.
Attention, hier on nous a dit le plastique est recyclable à l'infini, c'est une erreur, c'est faux. On sait aujourd'hui, on est sûr que ces métaux sont recyclables à l'infini.
On est sûr que ces métaux sont recyclables à l'infini. Après, il y a des subtilités dans lesquelles je vais pouvoir évoquer. En tout cas, on peut les recycler et notamment pas forcément en Europe. On n'a pas forcément les capacités industrielles aujourd'hui pour les recycler, mais c'est techniquement possible.
Où il se fait ce recyclage pour l'instant, alors si ce n'est pas en Europe ?
Alors, ce qu'il faut comprendre déjà sur le recyclage, c'est qu'il y a plusieurs étapes pour les batteries de véhicules électriques. Alors, premièrement, quand les batteries sont collectées, elles sont triées, elles sont démontées, elles sont déchargées, bien évidemment. Le démontage, il peut se faire de manière automatisée ou à la main. Et ensuite, elles sont broyées. Et ce broyage, il n'est pas techniquement extrêmement complexe. Donc ce broyage, il peut s'effectuer en Europe. Et ce qu'on obtient après cette première étape de broyage, c'est ce qu'on appelle de la black mass, poudre noire en français. Et c'est un concentré de matériaux extrêmement précieux, donc les matériaux que j'ai évoqués.
Lithium, cobalt, nickel,
exactement.
Etc.
Et à ce stade, il y a plusieurs procédés qui peuvent exister pour traiter cette black mass et donc récupérer les matériaux qui sont dedans. Le premier, c'est un procédé thermique. C'est ce qu'on appelle de la pyrométallurgie. Donc concrètement, on va chauffer cette poudre et on va pouvoir obtenir des matériaux mais qui ne seront pas suffisamment purs pour être réintroduits dans de nouvelles batteries. Donc ce n'est pas un procédé qui est extrêmement efficace. En revanche, il y a un autre procédé qui, lui, pour le coup, est plus coûteux et plus technique, mais qui permet de créer des matériaux qui vont pouvoir avoir des puretés suffisantes pour retourner dans de nouvelles batteries. C'est ce qu'on appelle l'hydrométallurgie. On utilise des acides, des agents réducteurs. Mmh. Et cette partie-là, elle se fait massivement en Asie, notamment en Chine, avec des capacités qui sont de l'ordre de 90 fois supérieures aux capacités européennes en 2025.
Et c'est comme ça que la Chine a pris beaucoup d'avance sur la question du recyclage d'ores et déjà.
Exactement, et c'est aussi lié à son avantage compétitif sur l'amont de la chaîne de valeur, puisque la technologie que j'ai évoquée, donc l'hydrométallurgie, c'est très similaire à ce qu'on trouve aujourd'hui pour le raffinage des métaux, donc la partie qui intervient juste après l'extraction pour des matériaux vierges.
Donc c'est ce qu'on appelle donc la black mass, cette poudre noire est considérée depuis le mois de mars, vous me dites si je me trompe, Marine Hoch, je crois que c'est vraiment ça en particulier que la Commission européenne considère désormais comme déchet dangereux et dont elle interdit l'exportation hors des pays de l'OCDE. Matière dangereuse, c'est vraiment dangereux ou c'est opportun de la qualifier comme dangereuse parce qu'en fait c'est stratégique et qu'il faut la garder le plus possible en Europe?
Alors, je pense que la décision de la Commission européenne, et d'ailleurs, elle a été justifiée comme telle, elle intervient plutôt comme une décision stratégique. En revanche, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que dans la mesure où l'Europe n'a pas encore de capacité suffisante pour traiter cette black mass, la Commission n'a pas pu, par exemple, envisager un ban total des exports. Donc aujourd'hui, cette black mass, elle est toujours exportée massivement, notamment vers la Corée du Sud, pour être traitée.
L'idée, c'est d'organiser une filière en boucle donc en Europe, sauf que pour l'instant, les usines de recyclage qui devaient ouvrir, par exemple en France, sont à la peine. Eramet a jeté l'éponge pour son usine avec Suez près de Dunkerque. Le Canadien Lee Cycle n'a manifestement plus l'intention d'ouvrir une usine de recyclage dans le Pas-de-Calais. Pareil pour une usine que devaient ouvrir deux entreprises norvégiennes et suédoises dans le Nord à Ordin, et l'une des deux entreprises a fait faillite, donc il n'est plus question de ce projet-là. Il y a quand même, qu'est-ce qu'on peut dire de la capacité de recyclage des batteries aujourd'hui en Europe? Qu'est-ce qui existe? Ça a l'air d'être minimal, mais ça existe quand même.
Oui, alors comme je l'ai évoqué, il y a déjà une capacité de broyage qui, elle, pour le coup, est plutôt bien répartie sur le territoire européen. En revanche, pour cette deuxième partie, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un procédé extrêmement technique qui demande aussi des prix de l'énergie assez bas, puisque c'est assez énergivore. Il y a tous ces enjeux sur lesquels l'Europe ne peut pas rivaliser aujourd'hui avec la Chine, qui a un avantage compétitif très fort, ce qui signifie que même en Corée du Sud, ils ont la capacité d'acheter cette black mass à des coûts qui sont totalement qui excluent les acteurs qui voudraient la traiter en Europe. Donc pour le coup, on est plutôt sur aujourd'hui des infrastructures qui ont des pilotes. Et la difficulté, c'est vraiment de passer à l'échelle, sachant qu'il y a aussi un enjeu de sécuriser des intrants. Aujourd'hui, la filière, elle dépend massivement du développement des gigafactories, aujourd'hui en Europe, donc des producteurs de cellules de batteries, puisque c'est eux qui vont fournir le premier intrant à travers leurs déchets de production. Donc, toute la chaîne de valeur est assez interconnectée, ce qui fait que c'est vraiment toute une filière qui doit être soutenue, et ça, ça demande une politique industrielle assez forte et une volonté politique.
Et quand vous disiez que des organismes agréés par les États membres vont superviser la collecte et le traitement des batteries, quel rôle jouent les fabricants de batteries de véhicules électriques dans le recyclage de leur propre production aujourd'hui ?
Alors ça diverge plutôt en fonction des producteurs de batteries. Il y en a qui ont mis en place des circuits fermés, notamment en collaborant avec des recycleurs pour aussi effectuer des tests sur la recyclabilité des déchets qu'ils produisent. Cette partie-là de la filière, pour le coup, elle s'organise plutôt bien.
Pour conclure, ce nouveau règlement, il fixe aussi, vous le disiez, des taux minimums de matériaux recyclés dans la composition des batteries neuves fabriquées en Europe. Est-ce que les taux en question sont suffisamment, disons, ambitieux pour espérer bientôt des batteries qui utilisent le moins possible de produits vierges ?
Les taux envisagés sont assez ambitieux, donc ça commence à partir de 2031. Ils ont aussi été fixés en fonction des capacités qui ont été évaluées pour l'Union européenne. Ils sont ambitieux. En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour l'instant, ce n'est pas des obligations d'avoir des matériaux qui ont été recyclés en Europe. Et c'est tout l'enjeu, justement, de l'acte délégué, qui va établir les méthodologies de calcul de ces matériaux recyclés.
Vous dites ambitieux, mais si je reprends les chiffres, d'ici 6 ans, les nouvelles batteries devront contenir 6% de lithium recyclé ou 16% de cobalt recyclé. Pour nous qui ne sommes pas spécialistes, ça paraît très peu.
Ça paraît peu, mais c'est tout de même ambitieux au vu des capacités actuelles. Et surtout, ça dépend aussi des volumes de batteries qui vont entrer sur le marché à ce moment-là.
Merci Marine Hautch, vous restez avec nous. Vous êtes chargée de projet métaux critiques et recyclage à l'Institut Mobilité en Transition, institut associé à l'IDRI. Peter Burquet, vous souhaitiez dire un mot sur ce qui vient d'être dit, sur cette chaîne de valeur qu'on essaye de créer en boucle fermée en Europe. Est-ce que ça vous paraît faisable ? Est-ce qu'on en prend la bonne voie ?
Je pense que c'est intéressant parce que il s'agit de métaux critiques. Sur lesquels il y a des enjeux de souveraineté finalement qui interviennent et donc c'est une situation très très différente des déchets dont on a parlé auparavant, les plastiques notamment, qui sont pas du tout considérés comme étant stratégiques, hein. Donc voilà, je pense que il y a cette dimension qui se rajoute et qui permet après de mobiliser peut-être un soutien public plus important au développement de ces filières, ou aussi des boucles plus courtes. Est-ce qu'elles seront plus efficaces qu'en utilisant le commerce international des déchets, et en exportant tous ces déchets en Chine, où déjà il y a du recyclage à l'échelle ? Sans doute non, ça aura un coût pour l'Europe de développer ces filières.
Il y aura moins d'émissions de carbone, mais vous disiez l'un et l'autre tout à l'heure avec Eugénie Joltrou que de toute façon, les cargos chargés d'emballage qui arrivent, par exemple, vers la Chine ou des pays d'Asie du Sud-Est auraient de toute façon fait ce trajet pour d'autres cargaisons. Eugénie Joltrou, comme il y a quand même un peu de plastique dans ces batteries, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter au sujet de ce recyclage en boucle fermée en Europe des batteries électriques ?
Non, pas spécialement. Enfin... Vous avez déjà beaucoup parlé du recyclage des plastiques hier, donc effectivement il y a beaucoup de difficultés techniques, mais ça dépend vraiment des résines recyclées. Il y a des technologies plus matures comme le PET, mais dans les déchets électriques et électroniques, généralement c'est des plastiques plus compliqués à recycler, qui contiennent des produits chimiques.
Merci beaucoup Eugénie Joltrou d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes économiste et chercheuse à l'Institut Européen d'Économie et d'Environnement et au Centre Euroméditerranéen sur le changement climatique. Vous étiez en direct de Milan avec les moyens techniques de la RAI, et je salue notre confrère Adriano Totaro qui vous a accueilli. Merci beaucoup Peter Burquet, économiste et ingénieur responsable économie circulaire à la direction environnement de l'OCDE, et merci à vous Marie Hautch d'avoir été avec nous pour cette émission. La revue de presse internationale est signée Laura Dulieu ce matin, le jour d'après, en Afghanistan, Laura, au lendemain d'un énorme tremblement de terre.
Il était un peu moins de minuit dimanche soir quand Mathioula Shahab, journaliste indépendant et militant des droits de l'homme, a été réveillée par les murs de sa maison qui tremblaient. C'est la BBC qui recueille son témoignage. Mathioula Shahab habite dans le village d'Assadabad, à 16 km de l'épicentre de ce séisme de magnitude 6 dans la province de Kunar. C'est la plus touchée avec celle de Nagarhar dans l'est du pays. Mais la terre a tremblé jusqu'à Kaboul et même jusqu'à Islamabad, capitale du Pakistan voisin. Au moins 800 personnes sont mortes selon les autorités talibanes et près de 3000 ont été blessées. Il y a encore des disparus sous les décombres et des milliers d'habitants se retrouvent sans toit. Au lever du jour, Mathioula Shahab tente d'atteindre la zone montagneuse isolée où se trouve l'épicentre. Les routes sont coupées, il marche 2 heures avant d'atteindre les villages les plus touchés. Il arrive finalement à Andarlachak où 79 personnes sont mortes dans ce seul village. Le journaliste raconte à la BBC avoir aidé la population à creuser des tombes. Les visages des gens étaient couverts de poussière et le silence régnait, raconte-t-il. Ils étaient comme des robots, personne ne pouvait en parler. Et dans cette vidéo à Radio Azadi, relayée par Radio Free Europe, cet homme m'explique que quasiment tout son village de la province de Nagarhar s'est effondré, avec des enfants, des adultes et des personnes âgées coincées sous les décombres. Nous avons besoin d'aide ici, dit-il.
Mais l'aide humanitaire met du temps à se mettre en place.
Le gouvernement taliban a certes dépêché des hélicoptères, mais les zones les plus touchées sont montagneuses et difficilement accessibles. La zone est très escarpée et étroite et la majeure partie est inaccessible en raison des glissements de terrain et des pluies de ces derniers jours, explique au New York Times Kate Carey du Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies basé à Kaboul. Or, 4 ans après avoir repris le pouvoir, les talibans peinent à sortir l'Afghanistan de leur statut de paria, écrit le New York Times, malgré un timide dialogue avec la Chine et la Russie ces derniers mois. À l'heure actuelle, quelques pays ont proposé leur aide au peuple afghan. C'est le cas de l'Union européenne, de l'Inde ou du Japon. Nous étions déjà incapables de répondre aux besoins existants, affirme Shérine Ibrahim, directrice de l'ONG International Rescue Committee en Afghanistan. Il faut dire que la suspension de l'aide américaine au printemps dernier se fait douloureusement sentir. Des centaines d'hôpitaux et de centres de santé ont fermé, écrit le New York Times, alors qu'en parallèle, plus de 2 300 000 ressortissants afghans sont revenus dans le pays cette année, parfois de force, après avoir été expulsés du Pakistan ou d'Iran. Les États-Unis et d'autres puissances étrangères sont de plus en plus réticents à fournir une aide humanitaire ou au développement à l'Afghanistan. Le New York Times évoque l'inflexibilité des talibans sur les suppressions des droits des femmes et des filles, mais aussi les soupçons de détournement d'aide humanitaire. Dans un rapport cité par le journal américain, l'inspecteur spécial des États-Unis pour la reconstruction de l'Afghanistan affirme que les talibans utilisent tous les moyens à leur disposition, y compris la force, pour s'assurer que l'aide soit acheminée là où ils le souhaitent et non pas là où les donateurs l'ont prévu.
Pour conclure votre revue de presse, Laura Dulieu, des élections aux enjeux stratégiques au Guyana.
Où les habitants votaient hier pour élire leur président et un nouveau parlement. Or, ces élections de ce tout petit pays situé au sud-est du Venezuela ont toutes les raisons d'être scrutées, tant les enjeux y sont importants. À commencer par la gestion de cette manne pétrolière. Le Guyana est en plein boom pétrolier depuis 10 ans et la découverte d'énormes gisements dans ses eaux territoriales. Dans le média America's Quarterly, on apprend que des entreprises américaines et chinoises implantées dans le pays ont augmenté début août la capacité totale du Guyana a environ 900 000 barils par jour. Le pays devrait atteindre les 1 700 000 barils quotidiens d'ici 2027. C'est à peu près l'équivalent de la production norvégienne. De quoi faire exploser le produit intérieur brut. 43% de croissance en 2024 et le FMI prévoit plus de 10% de croissance pour cette année. Alors pour les 800 000 habitants, l'enjeu c'est bien la répartition équitable des richesses, écrit America's Quarterly. Et car si le Guyana a fait d'impressionnants progrès en matière d'éducation, le taux de pauvreté y reste élevé et le système de santé est encore bien en deçà de ceux de la région, selon la Banque mondiale. La répartition des richesses donc, mais aussi la menace vénézuélienne. Caracas lorgne depuis des années sur le Guyana et plus particulièrement sur le territoire d'Essequibo qu'il revendique. C'est plus de la moitié du petit pays. Un dossier qui a fait irruption dans la journée de vote hier. Le président sortant est candidat à sa succession, Irfan Ali, apportant son soutien au déploiement militaire des États-Unis dans les Caraïbes. La La veille, le Guyana dénonçait des tirs en provenance du Venezuela sur l'un de ses bateaux transportant du matériel électoral, selon le journal suisse Le Temps. Irfan Ali part favori avec l'avantage du soutien des États-Unis, mais il a seulement un siège d'avance pour sa majorité au Parlement, avec face à lui une coalition de l'opposition solide, ainsi qu'un troisième parti mené par un riche homme d'affaires sanctionné par Washington pour fraude fiscale. Le scrutin d'hier s'est déroulé sans incident, apprend-on dans le Guyana Chronicle, qui cite l'observateur de la mission d'observation électorale des États américains. Et les résultats sont attendus jeudi.
Merci Laura Dulieu. Dans un instant, les Midis de Culture.